La carte blanche, Africa Radio.
Avant de parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire après le retour attendu ce soir des 6 exilés FPI en Côte d'Ivoire, nous retrouvons donc notre invité carte blanche et il s'agit de Karamo Nabé. Monsieur Nabé, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs d'Africa Radio.
Vous êtes expert informatique et système d'information ici à Paris. Premier sujet avec vous, c'est la politique française en Afrique qui suscite quelques interrogations. Je suppose que vous voulez évoquer la situation politique au Tchad qui a eu lieu cette semaine.
Oui, bon, il n'y a pas que ça, c'est en gros la politique générale en tout cas du gouvernement français en Afrique, bon, par rapport à certaines choses. Bon, vous avez vu récemment le cas du Tchad, donc par rapport au coup d'État qui s'y est passé, et donc tout le monde a suivi un peu l'intervention, en tout cas du président français. On a un peu compris que les putschistes ont été ménagés par rapport à certains autres pays. Quand on prend aussi l'exemple, en tout cas des dernières élections qui se sont passées suivant les pays, par exemple pour la Guinée, vous avez vu toute la pression qui a été mise sur Alpha Condé, alors que la même chose s'est passée exactement en Côte d'Ivoire, et la pression n'était pas exactement la même. Donc pour le cas du Mali aussi, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc la politique générale, en tout cas du gouvernement français en Afrique, est un peu à géométrie variable en fonction des intérêts de la France dans le pays concerné.
Et vous estimez que cela est inacceptable pour l'Afrique francophone?
Oui, je l'estime. En tout cas, bon, je pense que en tout cas, les relations déjà internationales doivent se baser sur le respect réciproque. Et la France, en tant que patrie des droits de l'homme, devrait en tout cas se comporter exactement de la même manière, indépendamment des intérêts dans les différents pays. Et je pense qu'en tout cas, nous autres Français qui sommes tous ici, tout, nous ne nous reconnaissons pas trop dans cette manière de faire du gouvernement français. Parce que pour nous, en tout cas, la démocratie, elle est universelle. Ce sont les mêmes principes, tout. Donc, ça ne varie pas en fonction des pays.
Deuxième sujet avec vous, M. Karamo Nabé, c'est le Mali. Beaucoup de défis à relever pour de bonnes élections prévues en fin février prochain et qui devraient marquer la fin de la transition.
Oui, effectivement. Bon, comme vous le savez, depuis le coup d'État du 18 août au Mali, moi j'ai eu, disons, la malchance, en tout cas, d'être passé juste à Bamako. En ce moment, je devrais repasser par Bamako pour revenir. Et donc, il y a eu ce coup d'État, tout. Donc, bah, heureusement qu'ils ont quand même eu à le gérer très bien, parce qu'il n'y a pas eu de bain de sang. Mais cela ne donne, en tout cas, aucune légitimité aux militaires de rester au pouvoir, parce qu'ils ont quand même fait évincer un président démocratiquement élu. Mais je pense que ça se passe très bien. Ils sont sur la bonne voie. Et avec le référendum qui est prévu pour octobre 2021 et les élections présidentielles et législatives.
Le 27 février.
Voilà, le 27 février. Et donc, je pense que tout devrait bien se passer. Ça se comprend un peu, puisqu'il faudra quand même leur donner le temps nécessaire de faire.
Et je vais peut-être vous poser une question, mais pourquoi n'accordez-vous pas le même bénéfice du doute aux militaires et au pouvoir au Tchad, puisque vous semblez dire que vous êtes satisfait de la manière dont se déroule la transition au Mali?
Non, mais en fait, par principe déjà, moi je suis contre les coups d'État, parce que vous savez, c'est un président qui a été démocratiquement élu. Le problème, c'est que malheureusement, ils ont été, entre guillemets, ménagés, on leur a laissé tout le temps de préparer ces différentes élections. Donc, je pense qu'aujourd'hui, bon, il faut quand même leur laisser un peu ce bénéfice de doute pour voir un peu comment les choses vont se passer. Et je pense, je disais ça surtout aussi comparativement à d'autres pays où il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. Et là, le Mali, aujourd'hui, je pense que c'est plus ou moins calme. Ça se passe très bien, le chronogramme, en tout cas, se déroule.
Néanmoins, il restait des défis à relever pour que l'élection se passe bien. Quelles sont vos craintes par rapport à ce scrutin, très brièvement?
Les craintes, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de consultations et j'espère qu'ils feront quand même beaucoup de consultations, surtout avec le mouvement M5 qui était en tout cas la base de tout ce qui s'est passé. Je pense que ce seront des élections inclusives qui se dérouleront de façon pacifique sans aucune contestation. Bon, je pense que le Mali a l'habitude de faire ça et aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de doutes sur ça.
Dernière question, dernier sujet avec vous, M. Karamo Nabé, c'est le sport, demi-finale Ligue des Champions. Au match aller, PSG a perdu devant Manchester City par 2-1 à domicile. Est-ce que vous pensez qu'il pourra renverser la vapeur au match retour et se qualifier pour la finale?
Oui, bon, je pense que ce sera quand même très, très dur. Bon, moi, je suis un supporter du FC Barcelone, mais bon, c'est vrai que je vis à Paris et je supporte accessoirement le PSG. Mais quand j'ai suivi le match, en tout cas par rapport à tout ce qui s'est passé, c'était un match qui était complètement différent des matchs précédents avec le Bayern et le FC Barcelone, qui ont une défense plus ou moins
différent
compacte.
En quoi
différent surtout bon parce que
la détermination des joueurs
non je pense que les joueurs étaient très, très déterminés, mais le problème surtout c'était avec la défense de Manchester City qui était beaucoup plus compacte que les défenses des deux équipes précédentes, c'est-à-dire le Bayern et le FC Barcelone. Tout le monde a vu bon que Mbappé n'a pratiquement pas existé et le PSG s'est complètement en tout cas attelé à la tâche en première mi-temps et ils n'ont pas pu tenir ce rythme-là jusqu'à la fin du match.
Merci.
Et je pense que ça s'explique par le fait que le PSG est dans un championnat qui n'est pas aussi relevé que celui
du championnat anglais.
Que le championnat anglais.
D'accord.
Mais donc pour moi ça va être très très compliqué pour que le PSG puisse en tout cas remonter avec deux buts d'écart.
Merci monsieur Carmonabé, en tout cas on souhaite bonne chance au PSG hein, et je le dis pour faire plaisir à Phil Le Montagnard qui est un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Merci à vous monsieur Carmonabé d'avoir été notre invité carte blanche de cette semaine. Vous êtes sur Africa Radio, vous suivez le grand rendez-vous et nous allons à présent retrouver nos invités pour parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire avec le retour annoncé ce soir de 6 exilés du FPI. Et nous en parlons avec 4 invités, Dr Sylvain Nguessan. Bonsoir Dr Nguessan.
Bonsoir madame.
Analyste politique, directeur de l'Institut Stratégie d'Abidjan. Vous êtes dans nos studios dans la capitale économique ivoirienne. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement pour nos bureaux. Et nous accueillons également Jean Bonin Kouadio. Monsieur Kouadio, bonsoir. Allô, monsieur Kouadio, me recevez-vous? Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Chargé de communication du Front populaire ivoirien, vous êtes à Abidjan. Et avec nous à Paris, Jules Brou, cadre de Génération et Peuple solidaire. Monsieur Brou, bonsoir.
Bonsoir, madame. Et bonsoir à tous les auditeurs d'Africa Radio.
Et c'est le mouvement de Guillaume Soro. Également avec nous à Abidjan, Wakaltio Ouattara. Bonsoir, monsieur Ouattara.
Allô, bonsoir, madame, et bonsoir aux auditeurs. Oui, bonsoir madame.
Voilà, rédacteur en chef du journal d'Abidjan et vous êtes également membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci messieurs d'être avec nous. Ils seront donc 6 exilés FPI à regagner Abidjan ce soir et notre correspondant Mossi Savani d'ailleurs suit cette actualité pour nous et donc on attend encore l'arrivée de ces exilés FPI. Ce retour est le fruit des négociations entre les pouvoirs ivoiriens et ghanéens où résidaient ces exilés sous l'égide du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Est-ce qu'il a été facile, je m'adresse peut-être aux membres du FPI, si vous étiez dans la confidence peut-être, est-ce qu'il a été facile pour ces exilés d'accepter de rentrer en Côte d'Ivoire ou ont-ils eu quelques réserves, notamment quant à leur sécurité? Allô? Monsieur Kouadio?
Allô?
Oui, monsieur Kouadio, vous m'avez entendu?
Oui.
Oui. Allez-y, s'il
vous plaît. Oui, c'est un trou coupé. Mais bon, je crois que j'ai globalement entendu. Les exilés avaient déclaré depuis longtemps qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire lorsque le président Gbagbo s'est libéré. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas. Il devait rentrer depuis un moment déjà. Et à cause du Covid, ils n'ont pas pu rentrer puisque les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sont officiellement fermées. Et donc, il devait venir par la route. Et donc, il y a eu quelques tracts. Et finalement, ils sont venus par voie aérienne. Il y a eu une difficulté particulière.
J'avoue que la liaison avec vous, M. Brou, est un peu laborieuse. On espère que ça va s'améliorer et c'est assez difficile à comprendre, d'autant plus que vous êtes à Paris. C'est plutôt M. Kouadio, qui est à Abidjan. Oui. M. Brou, vous êtes là?
Oui.
Est-ce que vous pensez que ce retour va participer à cette réconciliation? C'est ça la question du jour. Et que les exilés retournés seront et ne risquent pas d'être peut-être arrêtés? Je pose la question, pourquoi? Parce que il y a certains comme Justin Katsinokone qui est fait l'objet d'un mandat d'arrêt. International d'ailleurs.
Oui. Alors, vous m'avez posé une excellente question et je vais vous dire, madame, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que les exilés politiques rentrent en Côte d'Ivoire parce que la constitution ivoirienne, dans la constitution ivoirienne, il n'y a pas de statut d'exilé politique. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui aux Ivoiriens, aux amis de la Côte d'Ivoire, c'est d'éviter de ramener le problème de réconciliation et de paix sur le seul cas des exilés politiques. Évidemment, un pas a été fait pour la réconciliation et la paix. Et nous espérons que le président Ouattara, le chef de l'État, restera dans cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de paix, de réconciliation. Et je comprends vos craintes, je comprends les craintes de certains d'entre nous, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Ouattara a gagné à faire emprisonner ces personnes? C'est la question que nous nous posons. Donc nous espérons qu'il restera républicain, qu'il ne fera pas mettre en prison ces personnes qui, après des années d'exil, ont décidé de rentrer chez eux.
Merci. Monsieur Ouattara? Allô?
Oui.
Oui, est-ce que vous avez confiance que ce retour va bien se passer et que ces personnes seront en sécurité, ou vous vous dites aussi qu'il pourrait y avoir des inquiétudes quant à la liberté de ces personnes?
Bon, d'abord, il faut déjà noter qu'ils sont déjà arrivés.
Ah.
Ils étaient présents aujourd'hui. Ils sont déjà pour le sang ivoirien il y a une trentaine de minutes.
Merci beaucoup.
Je crois qu'il faut saisir les autorités ivoiriennes. Le ministre de la Communication a indiqué pour les cas Franck Gbagbo et Bégouté qu'il serait cynique, entre les personnes et de les exilés.
Mais en même temps, ces six exilés ne s'appellent pas Laurent Gbagbo. Ils ne sont pas anciens présidents ou. Oui, peut-être pour Conan Katina, c'est différent, mais ils ne sont pas non plus Charles Blé Goudé.
Je continue. Dans les derniers discours du président Ouattara, notamment hier, il a donné le ton, disant qu'il était de la belle réconciliation avec Soné et qu'il fallait vraiment apaiser les choses, il fallait vraiment aller dans le cadre de la réconciliation. Donc, il faut pouvoir saisir les autorités ivoiriennes au mot et les attendre au cas concret de voir ce qui va se passer. Le ministre de la Communication disait que les exilés qui sont entrés aujourd'hui, c'est fait avec l'accord de l'État de Côte d'Ivoire. On suppose que l'État de Côte d'Ivoire donne des garanties à ces individus-là. Ce qui est entré, je ne pense pas que ce Catherine Justin avait un sens de doute sur la bonne santé de l'autorité ivoirienne. Il allait se rendre et même lié dans cet avion, sachant très bien qu'au pied de l'aéroport ivoirien, ça va permettre de le mettre en prison.
Merci.
Donc, on va aller dans le temps de la dégustation. Sûrement que dans les jours à venir, des lois d'amnistie pourraient être prises pour affirmer aux yeux de l'opinion la bonne volonté qui se dégage de part et d'autre des sanctions.
Merci beaucoup, Monsieur Wakatio Ouattara. Une fois de plus, la ligne n'est pas très bonne avec Abidjan, mais nous avons la chance d'avoir Monsieur Nguessan dans nos studios, donc ça devrait bien se passer. Alors, Monsieur Nguessan, je vous donne la parole pour résumer un peu tout ce qui a été dit par les précédents intervenants, je voudrais commencer par cette inquiétude relative au sort judiciaire de certains, dont Monsieur Katinan. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, n'a pas vraiment donné de précision sur une éventuelle levée ou non du mandat qui pèse contre M. Katinan. Est-ce que, pour vous, ça, il y a ces sources d'inquiétude ou pas?
Bon, je ne pense pas que M. Katinan serait rentré à Abidjan. s'il n'y avait pas eu un compromis politique garantissant sa liberté de mouvement une fois rentré en Côte d'Ivoire. S'il a pu attendre toutes ces longues années à Accra, et il aurait continué d'attendre s'il n'avait pas eu cette garantie-là. Je pense que, aussi bien au sein du FPI qu'au sein de l'exécutif ivoirien, des débats ont été menés, des négociations ont eu lieu, que c'est sur cette base du compromis politique que ces six exilés, dont M. Dabora Picas, M. Kone Katina rentrent. Ceci dit, je dirais qu'il est un peu tôt de se prononcer sur ces questions. On va attendre un peu après leur arrivée, voir les dispositions pratiques qui ont été prises par l'exécutif ivoirien, par l'Assemblée nationale, par le pouvoir judiciaire, pour voir s'ils vont bénéficier réellement d'une liberté de mouvement, si les promesses qui ont été faites seront respectées, s'ils ne seront pas poursuivis encore pour les griffes qui étaient retenues contre eux après la crise post-électorale de 2011.
Est-ce que vous pensez peut-être leur retour fait partie d'un package qui a été négocié dans le cadre de celui de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé?
Oui, je le pense. Je pense que le FPI, enfin, la tendance FPI de M. Laurent Gbagbo a présenté un package complet, négocié le retour de tous les îles qui ont occupé des postes de responsabilité au niveau du FPI. Et que là-dessus, il y a eu des points d'accord. Quels sont ces points d'accord? Qu'impliquent-ils? Quels sont les présupposés? Je ne saurais vous le dire, mais je pense qu'il y a eu un package complet et que tous ces leaders-là sont en train de rentrer. Il a annoncé également le retour de M. Stéphane Kipré, de M. Awadon Melo, etc. Que le président Laurent Gbagbo a venu clore cette série de retours au pays. Et donc, je pense que c'est un package complet qui a été négocié.
Merci. Alors, Monsieur Kouadio, si on pose encore la question de l'avenir judiciaire de certains exilés qui rentrent, notamment de celui de Monsieur Kone, est-ce que cela ne veut pas signifier qu'il y a peut-être ce défaut de confiance et que cette confiance n'est toujours pas renouée avec le pouvoir?
Oui, c'est clair que la question de confiance se pose toujours. En 2018, il y a eu une loi d'amnistie. Et aujourd'hui, personne ne sait exactement si ceux qui sont restés en exil sont concernés ou non par cette loi d'amnistie. C'est une question que beaucoup d'exilés se posent. Si on devrait, d'un strict point de vue, interpréter.
Votre crédit est insuffisant pour effectuer cet appel.
Bon, c'est nous quand même, Africa Radio, qui appelons nos invités. Donc, on ne saurait évidemment faire face à ce type de situation qu'on vient d'entendre. Donc, je pense que c'était juste un problème technique et qu'on retrouve encore M. Kouadio, si vous m'entendez. M. Kouadio, non, on l'a perdu, manifestement. M. Brou, est-ce que vous pensez que, avec ce retour, on peut parler d'une nouvelle dynamique, un nouvel état d'esprit qui s'est installé entre le pouvoir ivoirien et le FPI, mais pas seulement?
Alors, que je vous le disais tantôt, c'est un pas, mais il y a encore des choses à faire. Et comme je pense que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a encore des prisonniers politiques, il y a encore des exilés politiques, notamment Guillaume Kigbafori Soro et aussi Benjo du PDCI et bien d'autres. Vous savez, on ne peut pas emmener le problème de réconciliation et de paix à l'unique cas des exilés politiques du FPI. Pour arriver à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut prendre en compte le triptyque, c'est-à-dire vérité, justice et réconciliation. Et vous voyez, la justice, s'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas avoir une paix sociale. C'est un fait. C'est pourquoi je poursuis les propos que vous-même avez dit concernant la crainte que vous avez sur les arrestations. Je voudrais encore une fois dire que nous avons besoin d'une justice qui n'est pas aux ordres du pouvoir Ouattara en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes certes méfiants, mais nous voulons avoir confiance en ce pouvoir-là qui peut-être irait vers une réconciliation et un vrai dialogue en Côte d'Ivoire.
Merci.
Et nous avons foi que les choses vont évoluer. D'ailleurs, nous avons tenu à, dans une interview très récente, nous avons effectué des pressions sur le régime, nous avons fait le nécessaire auprès des institutions.
Merci.
Et aujourd'hui, la situation améliore.
Merci beaucoup. On va, monsieur, se retrouver dans un instant hein, pour parler effectivement et poursuivre notre débat sur cette confiance qui reste à renouer.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et bienvenue, nous parlons ce soir de la réconciliation en Côte d'Ivoire à la faveur du retour ce soir de 6 exilés du FPI à Abidjan. Et nous en débattons avec 4 invités, Jules Brault, cadre de Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro, Jean Bonin Quadio, chargé de communication du FPI, Sylvain Guessan, analyste politique, directeur de l'Institut Stratégie d'Abidjan, qui est en studio de Africa Radio à Abidjan. Avant de vous donner la parole, docteur Nguessan, j'aimerais qu'on écoute monsieur Ouattara sur cette inquiétude, hein, ce manque de confiance qui persiste. Vous disiez qu'il faut accorder le bénéfice du doute au pouvoir, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions, monsieur Ouattara. Allô? On ne l'entend pas, M. Ouattara. Bon, on me dit que vous êtes là pourtant. Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Allô?
Oui.
Oui, je peux y aller?
Oui, s'il vous plaît.
Alors, c'est normal qu'il y ait beaucoup de doutes pour les uns et les autres. En ce sens, ça fait quand même 10 ans que c'était hors du pays. Et entrer du jour au lendemain n'est pas toujours facile. Mais s'il reste hors du pays, on ne pourra jamais instaurer la confiance. Avant eux, certains sont venus comme Assoua Adou, Kadé Bertin. Il y a eu plusieurs directeurs qui sont rentrés au pays qui n'ont pas été inquiétés. Je crois que déjà avec cela, on peut accorder du crédit au gouvernement sur sa bonne foi. Maintenant, il y a une autre vague qui est arrivée. On va observer pour voir s'ils auront le même sort que les précédents retours ou s'ils seront appelés. Vous remarquez qu'ils sont interpellés, justement, ça va forcer le climat. Ça fera que ceux qui ne sont pas encore revenus vont freiner des cafés. Et là, on ne se rendra compte que le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi. Donc, ce n'est pas les premiers qui reviennent. Il y en a qui sont venus avant eux. Et
il y en a qui sont en attente, comme Guillaume Soro. Monsieur Brault disait tout à l'heure qu'il ne saurait y avoir de véritable réconciliation sans le retour de tous les exilés. Retour donc de 6 exilés FPI, oui. Quid des autres qui sont encore à l'extérieur, dont notamment l'ancien Premier ministre ivoirien, Monsieur Soro?
Oui, écoutez, bien avant vous, il y a quelqu'un qui disait dans le panel que tant que nous allons lier la question de la réconciliation au retour des exilés, on ne sera jamais réconcilié. Le peuple ivoirien s'est avancé.
Mais et comment en même temps réconcilier en laissant les autres sous le carreau?
C'est bien. Non, parce qu'on est allé sur le carreau. Aujourd'hui, c'est le tour peut-être de Gbagbo et de ses proches. Demain, ça sera sûrement ceux de Guillaume Soro et de ses proches. Je note également que Guillaume Soro avait une vingtaine de proches en prison en Côte d'Ivoire, une vingtaine de cadres, certains ont été libérés. Il y a encore, je crois, 5 ou 6 qui sont encore en prison, dont 2 de ses frères. Et si aujourd'hui, plusieurs, vous l'avez sûrement constaté, que je crois dans la nuit d'avant-hier à aujourd'hui, une centaine de personnes ont été libérées des prisons ivoiriennes. Était arrêté dans le cadre de la vie de l'Église. Les personnes ont été libérées. Donc nous osons croire que la vague va se poursuivre et qu'il n'y aura pas de distinction entre force de Gbagbo et force de Guillaume libéré et que tous ceux qui, à un moment donné, ont été incarcérés par rapport à cet événement, soit au retour de Guillaume en 1999 ou à la désobéissance civile en 2020, retrouveront la liberté.
Merci. Justement, donc, on parlait de libération. On peut mentionner celle de Pulcheri Ballet et de Assi, la plateforme alternative citoyenne, arrêtée dans le cadre des manifestations contre un nouveau mandat du président Ouattara. Docteur Nguessan, comment reconstruire la confiance nécessaire, on va même dire indispensable, pour aller vers une vraie réconciliation?
Et avoir des institutions fortes, que tout ne dépende pas de la bonne grâce du prince, que tout ne dépende pas de l'agenda ou de la stratégie du prince. À partir du moment où des lois sont clairement établies, une loi d'amnistie, où les griffes qui sont abandonnées sont mentionnées, il est facile d'établir la liste de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent de prison. Mais quand c'est traité au cas par cas et que cela dépend du bon vouloir du prince, on ne peut pas parler de l'implication, j'allais dire structurelle, de l'implication de cette décision sur la réconciliation ivoirienne.
Et quand vous dites, docteur Nguessan, qu'il ne faut pas que cela dépende du bon vouloir du prince, je suppose que vous voulez parler du président Alassane Ouattara. Comment imaginez-vous un scénario qui puisse permettre d'arriver à cette confiance nécessaire? Je crois que vous le dites aussi, peut-être parce que le ministre de la Réconciliation, Kwadwo Konan-Bertin, sur la question de la levée effective du mandat d'arrêt contre M. Katinan, n'a pas été en mesure de dire quoi que ce soit, peut-être parce qu'il attendait le feu vert du président. Alors, comment envisagez-vous la démarche? Quelle démarche il faut pour qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait la confiance entre les acteurs politiques et qu'on aille vers cette réconciliation dont la vraie, dont parle le président Ouattara lui-même?
Bon, il y a eu plusieurs mécanismes qui ont été mis sur pied depuis 2011-2012, dont les conclusions ont été simplement rangées dans les tiroirs. Pour répondre à votre question, on pourrait s'inspirer de plusieurs exemples, celui de l'Afrique du Sud, celui du Rwanda et de bien d'autres pays, Chili, etc. Il y a lieu, s'il le faut encore, de mettre en place une commission qui va statuer sur les griffes qui sont abandonnées, de sorte que ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil...
Une CDVR 2, après celle de Colombani.
Je ne sais pas comment, puisque la conclusion de la CDVR de M. Bahine n'a pas été exploitée, donc on ne peut pas dire qu'elle est allée jusqu'au bout de la mission qui lui avait été confiée. C'est vrai qu'il ne faut pas sortir de l'impunité, il ne faut pas encourager l'impunité, pardon. Il faut que la réconciliation repose sur la vérité, qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Donc, vérité, justice, réparation et réforme institutionnelle. Mais il faudra peut-être revenir sur la commission de M. Bani de ses conclusions pour voter des lois d'amnistie qui puissent garantir la liberté de mouvement des uns et des autres, de sorte que ce soit des institutions qui soient mises en avant, l'appareil judiciaire, l'Assemblée nationale, que ce soit des institutions qui décident de l'avenir, de notre projet commun d'avenir, et non des hommes qui s'asseyent, qui discutent, et donc qui peuvent remettre en cause leur parole un jour ou l'autre. Moi, je suis pour que ce soit des institutions, dans le respect de la séparation des pouvoirs, qui décident de la suite à donner à ce épineux épisode de la Côte d'Ivoire, de sorte à ce que nous soyons tous situés sur ceux qui doivent rentrer. Sinon, traité au cas par cas. Hier, c'était des proches du président Bédié qui sortaient. C'était un leader de la société civile qui sortait. Aujourd'hui, c'est ceux du président Laurent Gbagbo. Bon, on ne sait pas quand encore les négociations seront menées, de sorte à ce que ce soit les proches de M. Guillaume Soro. On ne sait pas quand est-ce que le tour des militaires qui ont été emprisonnés depuis 2011 va arriver. La crise post-électorale fait déjà 10 ans. 10 ans d'emprisonnement, 10 ans d'exil. Je pense que c'est un peu de trop. Il faudra trouver des mécanismes, que des institutions puissent se prononcer sur la question, de sorte à fermer cette parenthèse pour que nous tentions un projet d'avenir commun pour la Côte d'Ivoire.
Merci, docteur Nguessan. Monsieur Kwadwo, vous êtes là?
Oui.
Vu sous cet angle, tel que monsieur Nguessan vient de le dire, cette vraie réconciliation n'est pas pour demain, et même le retour des exilés ne devrait pas accélérer celle-ci.
Ben, c'est-à-dire que le problème, de mon point de vue, c'est que la réconciliation en Côte d'Ivoire n'a pas été conceptualisée. On a pensé que mettre en place des institutions CDVR, Commission nationale de réconciliation, ministère de la réconciliation, suffirait à réconcilier les Ivoiriens. Alors, ce sont des institutions, certes, mais ce ne sont pas les institutions qui vont réconcilier les Ivoiriens. Il y a un certain nombre de sujets qui fâchent les Ivoiriens, pour lesquels ils sont en désaccord depuis une trentaine d'années. Il faut les mettre à plat et les résoudre. Au-delà des questions...
Quelles sont ces questions qui fâchent, dont il faut discuter, selon vous?
C'est par exemple la question du foncier en Côte d'Ivoire. Il y a de nombreux conflits communautaires en Côte d'Ivoire entre allochtones, entre autochtones. Et c'est la question du découpage électoral. C'est la question de la nationalité. Donc, il y a énormément de questions qui opposent les Ivoiriens. Et il est important que les Ivoiriens puissent s'asseoir et solder toutes ces questions qui gangrènent la vie publique ivoirienne depuis trois décennies. Et c'est dans ce sens que le président du FPI, le président Kingesa, avait proposé, quand il est sorti de prison en 2003, les états généraux de la République. Donc il avait conceptualisé de façon méthodique la réconciliation. Malheureusement, le pouvoir a estimé que c'était des bavardages inutiles et n'a pas voulu entendre raison. Conséquence, aujourd'hui, nous en sommes encore à régler au cas par cas des situations et je crains fort que ce n'est pas de cette façon-là qu'on atteindra donc la réconciliation que tous les Ivoiriens souhaitent.
Merci. Monsieur Brou, on pensait peut-être à tort que le retour de ces exilés pourrait constituer un élément d'accélération de la réconciliation, mais finalement, quand on fait le tour de table, on a l'impression qu'il ne constitue même pas une goutte d'eau et qu'il ne devrait pas conduire qu'il ne devrait pas avoir un impact sur le processus de réconciliation nationale.
Oui, alors... Je voulais dire en début d'émission, et je suis content, heureux de voir que mes débatteurs rejoignent ce point de vue. C'est le fait de ramener le problème de réconciliation au seul cas des exilés. C'est le fait. Après, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes en train de négocier des acquis démocratiques. Et les acquis démocratiques ne se négocient pas. C'est le problème. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand il y aura de la vérité, de la justice, nous pourrons parler de réconciliation. Une réconciliation véritable, pour une réconciliation véritable, il faut des acquis. C'est pourquoi je ne cesse de le dire, il faut encourager, il faut dire la vérité au pouvoir Ouattara, d'aller dans le sens de la vraie réconciliation, en respectant les institutions de la République, et en respectant la loi fondamentale qui est la Constitution de la République, qui interdit...
Mais excusez-moi, M. Brou, il semble qu'il y a beaucoup de choses qu'on met dans ce dossier de réconciliation, qu'il y a beaucoup de préalables ou beaucoup d'éléments. M. Kouadio, tout à l'heure, parlait de problèmes fonciers et de bien d'autres dont il faudrait discuter. Oui. Vous vous dites qu'il faut tout le retour de tous les exilés, mais pas seulement. Mais finalement, est-ce qu'on va un jour en Côte d'Ivoire aller vraiment vers cette réconciliation sincère ?
Bien entendu, les fils de la Côte d'Ivoire sont obligés de se réconcilier. Nous sommes engagés vers une réconciliation. La volonté est bien là. Mais aujourd'hui, ceux qui tiennent le pouvoir, c'est bien le camp Ouattara. Donc, il est de notre devoir de dire à ce camp Ouattara de mener des actes concrets. Nous ne voulons pas croire, nous voulons voir.
C'est quoi ces actes concrets?
Ces actes concrets, au-delà de ramener quelques exilés, de libérer quelques prisonniers, il faut respecter la ne pas avoir de prisonniers politiques, d'opinion, ne pas avoir d'exilés politiques et permettre aux Ivoiriens de vivre la politique, de vivre la démocratie réelle.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de marquer une très courte pause pour ne pas avoir à interrompre l'un d'entre vous et nous allons revenir pour conclure notre débat.
Africa. Le grand rendez-vous. avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans votre débat ce soir, nous parlons du retour à Abidjan. Il y a quelques minutes de 6 exilés FPI. Et avec nos quatre invités, Wakaltio Ouattara, rédacteur en chef du journal d'Abidjan à Il est à Abidjan, Jules Brou, cadre de Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro, Jean Bonin Kouadio, chargé de communication du FPI à Abidjan, et docteur Sylvain Guesson, analyste politique et directeur de l'Institut Stratégie d'Abidjan, dans nos studios, dans la capitale économique ivoirienne. Docteur Guesson, on pouvait penser qu'avec le retour de ces exilés, les acteurs politiques ivoiriens iraient véritablement vers cette réconciliation, ce qui ne semble pas être le cas. Quelle est pour vous la démarche à suivre aujourd'hui, tant du côté du pouvoir que de l'opposition, pour qu'on amorce au moins cette réconciliation?
C'est certain que le retour des 16 exilés des six exilés va apaiser le climat entre l'exécutif ivoirien et l'opposition, ou du moins ça va contribuer, sans oublier la libération des militants de jeunesse du parti du président PD depuis hier. Mais la réconciliation en Côte d'Ivoire n'est pas uniquement une affaire de Ouattara, Bédié, Babo. Il y a des attentes de tous les Ivoiriens, des attentes de la société civile, des attentes des différentes populations, dont par l'un des panélistes, la question du foncier, la question... Bref, le Premier ministre Pierre Son Ahmed Bakayoko avait amorcé un dialogue politique avec les principaux acteurs du champ politique ivoirien dans le mois de décembre passé. Et l'un des points d'accord, c'était les assises nationales pour la paix et la réconciliation. Je pense, moi, pas que ce dialogue-là doit se poursuivre.
Et qu'on ne laisse pas la main uniquement à la classe politique.
Justement, que la société civile soit représentée, que les autorités coutumières soient représentées, que les différents points qui manifestent le désaccord, qui suscitent le désaccord entre les Ivoiriens, entre les habitants de la Côte d'Ivoire, soient énumérés de manière holistique, de sorte à ce que ces points-là soient discutés, donnons le temps, de sorte à ce que les questions soient discutées sur le foncier, qui a droit, qui n'y a pas droit.
Mais avant le foncier, docteur Nguessan, sur le plan politique, est-ce qu'il n'y a pas un préalable politique, c'est-à-dire qui consisterait, on l'a entendu de certains ici, à libérer l'ensemble des prisonniers politiques pour ceux qui sont détenus, à faire revenir ceux qui sont à l'extérieur, au moins qu'il y ait sur le plan politique cet apaisement qui permette d'ajouter d'autres questions, comme le foncier, à cette assise dont vous parlez?
Justement, je le disais tantôt, ça fait 10 ans que ces gens-là sont en prison. Pour moi, bon, ça ne devrait même plus faire le jeu d'un débat, il faudra les libérer et puis les laisser vaquer tranquillement à leurs occupations. Pour moi, ça va de soi, ça va de soi, il faut les libérer.
Mais qu'est-ce qui bloque, selon vous, alors que sur le plan politique, il y a des déclarations de bonnes intentions? Monsieur Ouattara, tout à l'heure, parlait encore des déclarations faites par le président Ouattara hier sur la nécessité d'aller vraiment vers la réconciliation. Mais qu'est-ce qui fait que ces préalables dont vous parlez ne sont pas levés pour qu'on y aille?
Je pense que ce sont des agendas politiques, des hommes politiques, qui ne souhaitent pas, qui souhaiteraient avoir des institutions à leur ordre, qui leur sont soumises, par exemple les forces de sécurité, en libérant les hauts gradés, les officiers de l'époque du président Laurent Gbagbo qui ont été emprisonnés. Qu'est-ce que le pouvoir va en faire? Est-ce qu'ils seront réintégrés dans l'armée? Est-ce qu'ils vont vaquer à leurs occupations de civils? Est-ce que je pense que ce sont ces questions d'agenda politique là qui font que il y a des blocages encore sur la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Donc, en vue d'un projet d'avenir commun pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faudra mettre l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au devant. Je pense que ce point-là ne peut être atteint que lors des assises nationales pour la paix et la réconciliation qui ont été prévues par le dialogue politique amorcé par le Premier ministre. Nous espérons que d'autres personnalités seront nommées pour pouvoir poursuivre ce dialogue politique.
Merci, docteur Nguessan. Monsieur Ouattara, c'est également votre vision. On me dit qu'on l'a perdu. Hélas, le rédacteur en chef du journal d'Abidjan est membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Monsieur Kouadio, c'est également votre vision de la réconciliation. Est-ce qu'elle est telle que docteur Nguessan vient de le dire?
Oui, comme je l'ai dit, nous, depuis 2013, nous avons proposé les états généraux de la République parce que c'est un cadre inclusif de réconciliation qui prend en compte toutes les questions qui divisent les Ivoiriens, comme je l'ai dit. Il y a évidemment la question du retour des exilés, la question de la libération des détenus politiques militaires et civils, parce qu'aujourd'hui, la plupart des civils donneurs d'ordre ont été libérés, mais les militaires, qui ne sont que des exécutants, sont encore en prison, et donc ça pose un réel problème. En 2012, M. Ouattara a mis en place une commission nationale d'enquête à l'effet de situer les responsabilités dans les tueries en Côte d'Ivoire. Et cette commission nationale d'enquête a établi, selon elle, qu'il y avait 749 tués du côté de M. Ouattara et 1400 du côté de M. Gbagbo. Bon, certes. Mais jusque-là, il n'y a qu'un seul camp qui a été poursuivi, arrêté et emprisonné. Et pourtant, cette commission a établi qu'il y a près des milliers de
mais dans ces conditions, M. Kouadio, la perspective d'une vraie réconciliation s'éloigne davantage, même avec la libération de ces exilés. Et du coup, si on va de préalable en préalable, va-t-on un jour vraiment aller à cette vraie réconciliation sincère?
Non, justement, nous ne parlons pas de préalable. Nous disons qu'il faut, une
réconciliation. Vous parlez de la question de la justice, de justice aussi du côté des...
Oui, bien sûr. Oui, mais évidemment, si on veut une réconciliation, il faut en place une justice, soit une justice réparatrice, soit une justice punitive. Or, jusque-là, on a mis en place que le principe d'une justice punitive. Or, cette justice punitive, elle ne punit qu'un seul camp.
De vengeance.
Ça ne peut que frustrer le camp, un autre camp. Ça ne peut donc qu'être un frein à la réconciliation. Donc c'est pour ça que nous avions plutôt proposé une justice réparatrice plutôt qu'une justice punitive.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Brou, on a souvent parlé de la réconciliation en Côte d'Ivoire et certains disaient, on dit pendant longtemps que celle-ci a été dévoyée, pervertie, mais on sent que après 10 ans de ce conflit post-électoral, on en est toujours loin.
Oui. Nous sommes bien loin de la réconciliation, comme vous le dites. Le fossé a été creusé par les hommes politiques. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons peut-être l'occasion de nous asseoir et de discuter autour d'une table. Je pense que nous devons demeurer dans la sphère du dialogue et du respect mutuel pour sortir de cette politique qui n'honore pas d'ailleurs notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous, quand Guillaume Soro, ne sont pas des chantres de ce dialogue sincère par faiblesse ou autre, mais parce que nous aimons notre pays et nous ne voulons pas le voir brûler. C'est pourquoi il faut faire des efforts. Et c'est pourquoi nous appelons, c'est ça M. Ouattara, qui est le chef de l'État, à mener des actes concrets pour aller vers un dialogue sincère et une véritable réconciliation, comme nos co-débatteurs l'ont dit, qui prendra en compte que nous connaissons, c'est-à-dire la vérité, la justice et la véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous souhaitons.
Merci. On va laisser le mot de conclusion au docteur Nguessan. Il y a eu des discussions ce matin entre Assouadou et le Premier ministre Patrick Hachi, et on parle ce soir du retour des 6 exilés. Et cela signifie-t-il que le retour de Laurent Gbagbo est vraiment imminent? En deux mots, docteur Nguessan.
Je pense que le président Laurent Gbagbo s'apprête à rentrer dans certains couloirs de sa formation politique, Ensemble, la démocratie et la souveraineté. Il est question de son retour avant la fin du mois de juin. Bien évidemment, ce serait un soulagement qu'il puisse rentrer pour apporter sa modeste contribution à ce processus de réconciliation des Ivoiriens.
Et cette fois, on pourrait véritablement parler de l'accélération de cette réconciliation?
Ça dépendra des ingrédients qu'on mettra sur la table.
D'accord. Donc le premier serait quoi exactement?
Le retour de tous les exilés, la libération de tous les prisonniers politiques, le reste on verra.
Merci beaucoup, Dr. Sylvain Guesson, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Vous étiez dans nos studios d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Merci de vous être déplacé, Dr. Guesson. Merci à vous, Jean Bonin Kouadio, chargé de communication du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Merci à vous, Jules Brou, cadre de Génération et Peuple Solidaire, de l'ancien Premier ministre ivoirien et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et enfin à Waka Altio Ouattara, rédacteur en chef du journal d'Abidjan et membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Édouard Nying et à Hugo Vallière qui m'ont aidé à vous proposer cette émission que vous retrouverez bientôt en podcast sur notre site internet africaradio.com. Bonsoir et bon week-end.